Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce jeudi 20 juin, troisième jeudi de ce mois de juin en effet, et dernier rendez-vous de cette saison 2018-2019 pour ce rendez-vous mensuel autour de la mémoire et du monde ouvrier stéphanois avec l'association locale avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années maintenant, en plusieurs saisons, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, le GREMOS. Une dernière cette saison avec un sujet, allez, surprise, je vais laisser à nos invités le soin de présenter bien entendu le menu contenu de ce programme avec nous aujourd'hui et pour mener à bien cette émission, menée de main de maître, Antoine Vernet et Michel Rothenberg du GREMOS avec nous, avec vous. Bonjour à vous messieurs.
Bonjour Lionel.
Bonjour Lionel.
Michel, je te laisse le soin de lancer et présenter cette émission spéciale.
Oui, bonjour à tous. Donc là, je suis avec Antoine Vernet, qui est historien. Moi-même, Michel Rothenberg, je suis sociologue. Et je suis membre du Centre Max Weber, qui est un laboratoire de recherche en sociologie, et qui est l'héritier d'un laboratoire historique de Saint-Étienne, qui est le CRESAL, le Centre de Recherche et d'Études en Sociologie Appliquée de la Loire. Donc nous allons aujourd'hui vous parler des relations que le CRESAL a pu entretenir avec les études sur les mondes ouvriers. Alors, à l'origine, nous souhaitions développer cette thématique parce que il y a des travaux actuellement qui sont en cours à l'université et les archives du laboratoire, qui est un laboratoire ancien, on en reparlera, doivent être déménagées. Les travaux n'ont pas commencé, le déménagement n'a pas commencé, les archives ne sont toujours pas triées. Donc, l'idée de travailler sur les archives du CRESAL à propos des mondes ouvriers a dû être un petit peu transformé et nous allons parler de cette histoire à partir d'entretiens que nous avons pu avoir avec certains collègues qui étaient à l'origine du CRESAL et de la connaissance qu'Antoine a pu avoir de cette partie de l'histoire du laboratoire du fait de ses travaux de recherche. Alors Antoine, je vais peut-être te passer la parole tout de suite pour que tu puisses nous dire en quelques mots quelles sont les origines du CRESAL. Nous allons voir qu'elles sont très anciennes.
Oui, tout à fait. Alors on va faire un travail d'historien et on va avoir toujours la mauvaise habitude de revenir un peu sur la genèse, sur ce qui se passe avant. Et les origines du CRESAL, on peut les faire remonter en région stéphanoise de manière concrète aux années 40, à la période de la Seconde Guerre mondiale. On peut même plus précisément les faire partir du quartier de Solors. Alors, il y a deux origines différentes, mais qui se recroisent. On a à Solors une entreprise qui existe toujours aujourd'hui, qui est l'entreprise Tuan, avec le gendre de Maurice Tuan, qui s'appelle Jean Queneau, qui est un polytechnicien, qui vient ensuite travailler auprès de son beau-père, et qui est particulièrement soucieux, justement, des relations entre on va dire, les patrons et la classe ouvrière. Et ça va passer donc notamment par un intérêt pour les conditions de vie ouvrière et par également l'occupation de ces personnes. Donc, autour du centre social de Solors, à partir de 1942, il va y avoir un travail qui va se mettre en place d'enquête sociale, justement pour connaître les conditions de vie, les conditions d'habitat de ces populations ouvrières de Solors au départ, mais de Saint-Étienne et de la région stéphanoise en général ensuite. Et c'est un intérêt qui est renforcé par un ancrage de ce patron stéphanois, Jean Queneau, dans une association qui a été créée en 1941 à Marseille, puis qui a déménagé en région lyonnaise, et qui s'appelle Économie et Humanisme, qui a été fondée par le père Louis-Joseph Lebray, et qui cherche, elle aussi, à trouver les moyens de mettre en place une économie humaine et donc un développement qui soit profitable à la fois aux dirigeants et aux ouvriers.
Économie-humanisme, tu reviendras peut-être, c'est une association un petit peu particulière sur la région et puis qui a une philosophie politique qui mérite peut-être d'être expliquée.
Alors, on est dans le catholicisme social, pour dire les choses clairement. Et avec un basculement qui a lieu au moment de la guerre, au moment de Vichy, au départ, on a une association qui cherche à promouvoir le modèle communautaire, qui est favorable au corporatisme. Et puis quand la compromission de Vichy va être trop importante, il va y avoir un basculement un peu plus vers ce qu'on appellera plus tard les cathos de gauche, même si tous n'étaient pas de gauche, loin de là, et justement vers l'idée du développement, du progrès, ça ira également avec la question du développement du tiers-monde par la suite. Mais en ce qui concerne la région stéphanoise, évidemment, les enjeux sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus locaux. Et donc, ce creuset d'économie humanisme, il y a quelques militants qui vont s'intéresser à partir de 1943 à ces questions-là. Il va rencontrer des gens qui, eux, soit viennent de l'Action catholique, par exemple la Jeunesse ouvrière chrétienne, ou d'autres organisations d'adultes comme le Mouvement populaire des familles, et également des militants qui sont, eux, inscrits à la CFTC. Et donc, on a aussi un milieu catholique stéphanois avec beaucoup plus de gens qui viennent des mondes ouvriers, qui sont, eux aussi, sensibles à la question à la fois des relations de classe, mais aussi d'une meilleure connaissance des conditions de vie entre des ouvriers et, par exemple, des mineurs à Saint-Étienne.
Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces mondes ouvriers, parce que là, Saint-Étienne est une grande ville ouvrière. Tu as parlé des mineurs. Est-ce que ce sont vraiment les mineurs qui sont concernés, ou est-ce d'autres secteurs, d'autres branches?
Alors, les mineurs, c'est le premier centre d'intérêt, parce que c'est là où les conditions de travail et de vie sont réputées les plus rudes. Puis il y a une réputation aussi de l'alcoolisme des mineurs pour tenir le coup pendant leur dure journée de travail. Mais Saint-Étienne, c'est également effectivement le textile, qui s'est déjà beaucoup féminisé, c'est la métallurgie et la mécanique, et puis c'est beaucoup d'autres petites industries. Et si on sort de Saint-Étienne, on va trouver de la verrerie dans la plaine du Forêt ou à Rive-de-Gier, on va trouver de la chapellerie, etc., etc. On est dans une région qui est véritablement pluri-industrielle, et c'est vrai que ça fait beaucoup de domaines à étudier. Même les ouvriers du bâtiment sont légitimes dans cette approche.
Alors, il y a un moment dans l'histoire du Crézal, avant sa naissance, en 1958, on y reviendra, qui va avoir une certaine importance. En 1956, c'est la création des comités d'expansion, parce que les comités d'expansion vont être l'un des fournisseurs d'études, des demandeurs d'études pour le Crézal. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces comités d'expansion et sur ce contexte de transformation du développement de l'économie des entreprises?
Alors, il y a un basculement avec le début des années 50. Et donc, les militants qui étaient des bénévoles d'économie et humanisme, qui faisaient ces enquêtes de terrain, qui allaient voir un peu les gens dans les foyers. Donc, c'était une approche, on va dire, de démographie en grande partie. Vont de plus en plus se soucier de la question de la modernisation du bassin stéphanois. C'est une terre de vieille industrie, et dès le début des années 50, il apparaît clairement que c'est une région dépassée, notamment par la Lorraine, et qu'il y a une petite crise économique à ce moment-là, et que le destin de la région est loin d'être assuré. Donc l'idée des gens qui sont autour d'économie et humanisme à ce moment-là, donc Queneau, et puis on peut parler également d'un syndicaliste, un ancien permanent de la JOC, qui devient également syndicaliste à la CFTC, qui s'appelle André Garnier, qui va être un salarié d'une entreprise créée par Jean Queneau pour faire de la mécanographie, donc des fiches pour exploiter justement des données de terrain, des données empiriques.
Et qui sera le premier salarié du Crézal.
Et donc l'idée, c'est de faire des études sur le tissu économique, tissu industriel stéphanois de plus en plus. C'est ce qui va motiver en 1954 l'implication de Queneau et de quelques autres pour faire l'ancêtre d'un comité d'expansion économique, en lien avec le préfet en grande partie. Et en 1956, donc le comité d'expansion se met en place. Mais là, au lieu d'être ces petites élites réformatrices nouvelles, le comité d'expansion, en fait, il est aux mains des élites traditionnelles qui sont plutôt en faveur d'un libéralisme montain et qui n'ont pas très envie de voir débarquer de nouvelles industries, de nouvelles entreprises qui viendraient faire une concurrence en augmentant le niveau des salaires pour la main-d'œuvre. Donc, là, le comité d'expansion, on ne va pas répondre à toutes les attentes formulées. Par contre, Queneau et notamment donc quelques autres, il y a des ingénieurs, il y a des juristes et quelques militants comme ouvriers comme Garnier vont se dire qu'il est quand même utile de continuer le travail d'expertise et de connaissance sur le tissu économique stéphanois. Donc, c'est des enquêtes par questionnaire auprès des usines, et ils vont se dire le travail de bénévolat, l'enquête sociale à la Lebray ou même à la Le Play, pour reprendre une figure de la sociologie du 19e, ça a ses limites. C'est pas très efficace quand il faut aller voir les décideurs politiques. Et donc, si on veut moderniser le bassin, si on veut améliorer les conditions d'existence de l'ensemble des populations de la région stéphanoise, et notamment des milieux ouvriers, il faut professionnaliser le travail d'enquête. Et donc, c'est comme ça qu'à la fin de l'année 58, les statuts de l'association qui est le CRESAL sont déposés. Donc, dans le conseil d'administration, il y a Jean Queneau, il y a André Garnier, il y a un cadre de chez Tuan qui va devenir ensuite patron d'une usine qui s'appelle les CRC, qui était en haut de la rue Denis Papin et au croisement de la rue Gutenberg, qui s'appelle Georges Bermond. Et Georges Bermond qui sera pendant longtemps le président de l'association CRESAL. Et donc l'idée, voilà, en créant une association, c'est de pouvoir fonder un bureau d'études. Et c'est ce bureau d'études qui va faire des enquêtes. Donc des enquêtes empiriques, voilà, on collecte des données ça et là. Et puis pour avoir de l'argent, pour faire tourner la boutique, pour embaucher des salariés, il faut passer des contrats. Et là, ce n'est pas vraiment le milieu stéphanois qui va financer ce travail, encore que la ville de Firminy, le comité d'expansion vont demander des petites enquêtes à gauche, à droite. Ça va être des administrations, des instituts parisiens, par exemple, ce qui va devenir l'INSERM, donc spécialisé sur d'abord l'hygiène et ensuite sur la santé et recherche médicale.
L'INED aussi, je crois.
Oui, l'INED. Donc, en fait, il y a des enquêtes sur la nutrition. Donc le terrain stéphanois, il a apprécié. Il y a des relais parisiens qui sont prêts à donner de l'argent pour faire vivre l'association. Il y a des enquêtes plus étonnantes, par exemple avec l'Euratom, qui est la communauté économique européenne de l'atome. Donc des choses un peu plus surprenantes. Et donc c'est toujours ce terrain stéphanois. Et là, on peut encore retrouver ces mondes ouvriers comme terrain d'études. Même si c'est jamais une enquête, clairement, sur des enquêtes sur les ouvriers, c'est toujours des biais un peu détournés déjà qui se mettent en place à la fin des années 50 et au début des années 60. On peut déjà lancer une première pause musicale avec une chanson de Jean-Yann des années 60-65, je crois, qui s'appelle Avec Maria, qui est dans le style de Jean-Yann. Un message un peu corrosif avec un détournement, vous allez l'entendre à la musique de l'Ave Maria.
Du début jusqu'à la fin de la semaine, je suis P3 chez Citroën. C'est un bon petit boulot, avec cantine et avantages sociaux. Je suis copain avec Nénès, qui est le délégué du syndicat. À la chaîne des boîtes de vitesse, je suis heureux comme un roi. D'autant plus que le samedi et le dimanche aussi. Avec Maria, on va danser la Java. Maria, c'est la jouvencelle chez qui je vais tous les midis. Pour faire chauffer ma gamelle sur son petit bain-marie. Je l'ai connu l'année dernière, Val de la RATP, où ce que travaillait son frère comme prêtre ouvrier. Et ce jour-là, messieurs dames, à la Salvagram, avec Maria, on a dansé la Java. Tout comme Adam et Ève, on va bientôt se marier. On attend la prochaine grève pour que je sois augmenté. Comme m'a dit mon contremaître, quand on est jeune, faut se dépêcher. Aussi un enfant va naître qu'on appellera Irénée.
Irénée, le divin enfant.
Et le soir, sans un mot, autour du berceau, avec Maria. Dans ses lettres kiss.
Oui, donc on est en 1958 avec le CRESAL qui vient d'être créé. Le CRESAL va entrer en relation avec des grands organismes nationaux, l'INED, l'INSEE, etc., pour se lancer dans des grandes enquêtes. Est-ce que dans ces grandes enquêtes, la question ouvrière va être posée de manière plutôt indirecte? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on va en trouver quelques-unes qui vont être plus directement attachées à la connaissance du monde ouvrier?
Alors, toute la difficulté, c'est la question des archives qu'on a. Et ces enquêtes, notamment pour l'Institut national d'hygiène, puis INSERM, par exemple, donc sur la nutrition, qui vont aller auprès justement de milieux ouvriers ou de milieux ruraux, on n'a pas les données ici. Il faudrait faire un travail un peu plus concret dans les archives de ces organisations ou du ministère de la Santé, afin justement de voir la formulation des questions. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un travail de commande qui s'appuie en partie sur les données empiriques qui ont déjà été récoltées auparavant par les enquêtes de terrain auprès des habitants, une observation des logements, des conditions de vie, une observation des budgets ouvriers. Donc c'est des données qui sont réutilisées, qui sont mises à profit dans ce cadre. Et à côté, on a tout un travail d'études empiriques, je disais, pour construire de la connaissance sur le monde économique, le monde industriel. Donc, on n'a jamais une enquête qui va avoir pour intituler dans les années 60 ouvrier, ouvrière. C'est pas une catégorie, c'est pas une approche qui est légitime. D'autant plus que bon, ouvrier, ça reste un mot qui peut être facilement connoté, et économie, humanisme, et encore plus ces commanditaires. Sont pas des organismes qui sont liés au Parti communiste, donc il y a sûrement aussi une volonté de ne pas s'afficher sur ce vocable-là. Et puis après, dans le contexte des Trente Glorieuses aussi, c'est plus la question des équipements, par exemple éducatifs ou de santé, c'est plus cette offre-là à destination des populations, et donc évidemment des milieux populaires, qui va être l'objet des recherches et des formulations.
Alors, il y a un grand personnage dont on n'a pas encore évoqué le nom, qui est un personnage parisien, Paul-Henri Chambardelot, dont on dit qu'il est venu à Saint-Étienne, dont on dit qu'il a aussi fait travailler un certain nombre de Stéphanois sur des grandes enquêtes ouvrières. Est-ce qu'il y a eu des relations entre les travaux de Paul-Henri Chambardelot, créateur du laboratoire d'ethnologie sociale, et le CRESAL?
Alors, a priori, non. A priori seulement, parce que là aussi, il faudrait creuser et aller voir dans les archives de ces enquêtes, notamment au début des années 50. Il y a une enquête qui est faite par l'équipe de Chambardelot au Chambon-Feugerolles. Donc il faudrait voir, est-ce qu'ils avaient des relais locaux, et qui étaient-ils justement, afin d'avoir une connaissance plus fine du vécu ouvrier. Mais en tout cas, par la suite, il n'y a pas de lien entre cette équipe autour de Chambardelot. On peut penser, par exemple, dans les années 60-70, à des gens comme le prêtre ouvrier Maurice Combes, qui va faire une thèse de sociologie sur les licenciements à l'ASFAC, à la Chalet-Assière, en 1963. Également une thèse de celle de Daniel Mandon sur les barbelés de la culture. Donc, il y a une sphère Chambardelot, et il y a une sphère qui est à l'origine celle de Lebret, d'économie et humanisme, et qui donne ensuite le CRESAL, en tout cas dans ses premiers temps. Et ces deux mondes qui sont clos. Et alors que Chambardelot revendique le fait d'étudier le quotidien ouvrier, il est vrai que le CRESAL, lui, va rapidement s'éloigner de cette matrice de l'étude des mondes ouvriers.
Et Chambardelot est lui-même assez proche des milieux catholiques.
Oui, entre un Louis-Joseph Lebret et un Chambardelot, on a deux considérations qui sont assez proches. Bon, après... on a un dominicain, on a un Chambardelot qui lui est peut-être plus Pierre Teilhard de Chardin. Donc c'est pas tout à fait les mêmes écuries, on va dire, mais on a c'est du catholicisme social là aussi, c'est la grande étiquette, des préoccupations proches, mais des modalités différentes. Et puis entre une sociologie appliquée d'un côté et une sociologie universitaire de l'autre, on n'a également pas tout à fait les mêmes préoccupations.
Assez étonnant, on interviewait Jacques Yon, qui était l'un des premiers chercheurs embauchés au CRESAL, et qui nous disait qu'il n'avait jamais rencontré Maurice Combes. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment. C'est vraiment étonnant, cette dissociation qu'il y a entre les chercheurs. Mandon lui-même, semble-t-il, n'est jamais venu au CRESAL. C'est également quelque chose de tout à fait étrange.
Oui, après, il y avait sûrement des considérations d'ordre militant, politique, voire syndicaux qui expliquent aussi qu'on a des sphères différentes, des groupes différents. Mais on peut trouver justement qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la question sociale en région stéphanoise et qui œuvrent chacun de leur côté, ce qui pose un peu le problème de l'action collective qui n'est pas le fort de notre région en matière de réforme, en matière de modernisation, etc.
Alors, je me souviens un jour, on était, je crois, tous les deux, ou peut-être que j'étais seul, mais je me souviens qu'on était tous les deux, on a découvert un carton avec des fiches mécanographiques qui était dans le petit local où il y avait les archives du laboratoire. Est-ce que tu te souviens de ces fiches mécanographiques ?
Ah, là, comme ça, non, mais je vois à quoi ça ressemble.
Qui avait été, si je me souviens bien, réalisé pour des grandes enquêtes de l'INED, qui avait été réalisé par le CRESAL, et sur des problématiques de santé des populations ouvrières. Là, ce sont des archives qui peuvent être utilisées pour... aujourd'hui par l'historien, ou c'est des archives, ces fiches mécanographiques qui ressemblent...
C'est toute la difficulté de l'obsolescence des techniques. On a déjà un matériau qui demandait un travail de fourmi pour le constituer à l'époque. Il fallait beaucoup de petites mains. Et même s'il y avait des permanents salariés au CRESAL, souvent ils recrutaient des stagiaires ou ils avaient des bénévoles qui venaient faire ce travail de saisie, parce que pour pouvoir faire une exploitation statistique de grande ampleur, il fallait accumuler de la donnée énormément. Pour l'historien, aujourd'hui, ça demande aussi un investissement assez important. On n'a plus, a priori, les appareils qui permettent de lire ces fiches de manière groupée. Donc il y a une vraie question qu'il faut se poser. C'est pas juste à une échelle stéphanoise qu'elle se pose, c'est au niveau du milieu des historiens français ou urbanistes ou sociologues. Mais tant que le matériau existe, au moins on peut s'interroger sur ce qu'on peut en faire, et il y a au moins sur la méthode d'enquête des choses à en tirer.
Alors dans ce que tu viens de dire, il y a une chose qui est importante, et moi, je suis arrivé en 2006 à Saint-Étienne au CRESAL, et c'était déjà la fin de cette période, même si on sentait qu'elle était encore présente. C'est le lien étroit entre les chercheurs et des bénévoles. Le CRESAL a toujours été un lieu d'accueil de nombreuses personnes, de nombreux chercheurs associés ou bénévoles qui n'étaient pas forcément chercheurs. Cette relation entre les bénévoles et les chercheurs, elle existait déjà en 1958. Elle a existé, en 1958 peut-être pas encore, mais elle a existé dès les années 60.
Au cours des années 60.
Au cours des années 60. Tu as pu identifier un certain nombre de gens, de bénévoles qui étaient là très souvent, qui étaient un peu des figures du laboratoire.
C'est un peu compliqué. Alors déjà, les recrutements, ils se font surtout à partir du milieu des années 60. Il y a des gens un peu à temps partiel aussi qui viennent aider, une première équipe qui se forme autour de Bruno Venin, qui est un économiste, qui sera un homme politique d'importance à Saint-Étienne dans les années 70-80, et même 90. Et donc c'est un économiste qui a fait Sciences Po Paris, qui va être vraiment le centre de cette équipe, et il va y avoir différents permanents recrutés. Et donc après, fin des années 60, beaucoup de gens sont recrutés, mais beaucoup de gens repartent aussi. Donc c'est vrai qu'il y a ça, il y a beaucoup de turnover, et parfois les bénévoles, les enquêteurs sont les personnes qui assurent aussi en partie la continuité. Alors attention, parmi ces bénévoles, on a aussi des étudiants, des gens liés aussi au milieu catholique. On a même, je pense, des abbés pendant quelques temps. On a des gens liés à Jean Queneau, je pense que sa secrétaire longtemps travaille au service du CRESAL, etc., etc. Mais on a une difficulté pour voir ça, parce que jusqu'en 70, tous les travaux, toutes les études du CRESAL ne sont pas signées. On peut se douter, en fonction des sujets, des spécialités, des chercheurs, voire des bénévoles, qui a contribué à telle étude en premier lieu ou à titre d'aide. Mais voilà, ce ne sont pas des enquêtes signées, on ne peut pas savoir précisément qui les a faites pour les permanents et encore moins pour les bénévoles.
C'est avec une signature collective. On ne voit pas indiquer le nom des chercheurs qui ont été impliqués dans le travail.
C'est ce qui nous rappelle qu'on est vraiment à un moment où c'est de la recherche appliquée, c'est de la recherche sur contrat. Et le but, c'est de répondre à un commanditaire et ce n'est pas d'afficher un...
Ce n'est pas de publier des articles dans des revues.
Non.
Alors, il faut dire que le CRESA n'est pas encore à l'époque, c'est toujours une association.
Oui.
Donc, ce n'est pas une équipe de recherche au sens où on l'entend aujourd'hui. Hein. C'est pas la reconnaissance par l'université et par le CNRS va se faire plus tard, à partir de 1974, je crois.
Oui. Ce qui fait que jusqu'en 1974, tous les gens qui sont recrutés, à l'exception a priori de Jacquion, n'ont pas fait de thèse. Donc ce sont des gens qui ont des diplômes, des DES, des maîtrises ou des licences, mais qui n'ont pas fait une recherche plus poussée. Et ça, c'est à partir de 1974. Il va y avoir l'association donc au CNRS de l'équipe, d'abord en économie, et puis en 1982, ça sera en sociologie. Et à ce moment-là, les chercheurs salariés du CRESAL vont devenir des contractuels du CNRS. Et pour être titularisés, ils vont avoir intérêt, eux, à faire une thèse. La plupart du temps, ça sera une thèse sur travaux qui permettra justement de valoriser les différentes recherches qu'ils ont pu faire. Et dans les années 70, comme leurs enquêtes sont signées, on voit apparaître des spécialités, des objets un peu fétiches des différents chercheurs. Et c'est vrai que c'est là où ça change aussi un petit peu la nature du travail de l'association.
Alors, Jacquion, dont on a parlé à l'instant, dont tu viens de parler, a été le responsable d'une grande étude nationale sur les centres socioculturels à partir au début des années 70, je crois, une grande étude qui va le faire connaître dans le monde de la recherche. Et Jacquion considère un petit peu que c'est cette étude qui va être à l'origine d'un basculement du CRESAL vers la recherche peut-être un peu plus académique. Cette grande enquête sur les centres culturels va comparer la situation stéphanoise avec ce qui peut se passer dans d'autres villes comme Grenoble, Nantes ou Rennes. À partir de cette grande enquête, au début des années 70, à partir de ce basculement vers la recherche, est-ce que tu vois, toi, en tant qu'historien, une transformation effective dans les travaux des chercheurs du CRESAL? Et est-ce que la question ouvrière, puisque c'est quand même celle-là qui nous intéresse, est traitée différemment?
Avec les années 70, il y a une chose qui apparaît beaucoup plus clairement, elle existe déjà avant, c'est que certes, pour vivre, pour payer des permanents et aussi pour financer des travaux sur la connaissance économique, sociale de la région stéphanoise, puisque les collectivités ne sont pas très bonnes payeuses, ne contribuent pas beaucoup au fonctionnement de l'association, il y a toujours ce recours important à la recherche contractuelle, recherche urbaine, surtout. Sauf que les chargés d'études du CRESAL sont très doués. C'est-à-dire qu'ils cherchent, c'est ce que les témoignages disent, et puis c'est ce qu'on peut comprendre aussi.
C'était connu dans le monde académique aussi, cette capacité.
Il y a des appels d'offres, il y a des contrats proposés par des administrations, des instituts à Paris, et les chargés d'études du CRESAL vont bidouiller, vont bricoler autour de l'intitulé de l'appel d'offres. Ils vont proposer leur propre sujet qui rentre dans ce cadre, mais qui correspond aussi à leur sensibilité, à leurs préoccupations. Et donc, ce sont des objets qui vont constituer après un peu le fondement de leur recherche fondamentale aussi, lorsqu'ils ne seront plus uniquement des chercheurs sur contrat. Et on pourrait citer d'autres enquêtes sur le logement, sur également pour André Micou par exemple, mais on s'éloigne de l'urbain et de l'ouvrier sur le parc naturel régional du Pilat et sur le refus de la ville, on a des objets qui sont quand même beaucoup plus personnels, ce qui sera donc un des sujets de travail de Jacques Yon sur les équipements socioculturels. Et en tout cas, voilà, c'est ce qui fait émerger une personnalité peut-être plus importante, plus remarquable au niveau académique aussi des chercheurs du Crésal. Après, des enquêtes nationales, une commande nationale et un terrain stéphanois, toujours. Et surtout un terrain qualitatif, des réseaux, des entretiens. Et finalement, le moins possible de quantitatif, de mécanographie, ça reste quelque chose qui va peu à peu s'éteindre, même s'il reste des économistes au Crésal jusqu'aux années 90.
Oui, de Banville en particulier.
Étienne de Banville et Bruno Venin aussi, lorsqu'il n'est pas avec un mandat politique. Et le monde ouvrier, là encore, il est implicite, il est euphémisé, il devient pas invisible parce qu'il fait partie de ce support. Mais les problématiques, les interrogations, là encore, elle porte sur un terrain d'une ville industrielle plus que d'une ville où on trouve des ouvriers. Voilà, c'est une question de biais, c'est une question d'approche.
En fait, ce que montre cette grande étude comparative sur plusieurs villes françaises de taille à peu près équivalente, c'est que dans ces centres socioculturels qui sont créés par les pouvoirs publics, a priori plutôt destinés à la population, au milieu populaire, aux classes populaires, ce sont ce qu'on pourrait appeler les nouvelles couches moyennes qui prennent le pouvoir, qui peuvent être issues du monde ouvrier, qui n'interviennent pas forcément en tant qu'ouvrier ou que membre de la classe ouvrière, mais plutôt comme intellectuel émergent ou comme petite classe moyenne, d'une certaine manière les bobos de l'époque qui vont être très présents. Et alors, ça va être présent dans toutes les villes. À Saint-Étienne, apparemment, ce mouvement que l'étude montre assez fortement sur l'ensemble du pays, à Saint-Étienne, il y a un certain nombre de résistances, semble-t-il, en particulier venant des amicales laïques dans certains quartiers, qui continuent, portées par le PC ou la SFU ou le PS, qui continuent à défendre une identité ouvrière particulière qui pourrait s'exprimer dans ces lieux. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui...
On a effectivement des réseaux militants, politiques, qui sont très engagés dans le tissu associatif et qui, puisque Saint-Étienne reste une ville industrielle, une ville ouvrière, au moins jusqu'aux années 70-80, conservent une importance réelle. On a d'autres types d'engagements aussi qui donc apparaissent au cours des Trente Glorieuses. Et c'est vrai que peut-être il y a une plus grande proximité des gens qui sont au Crésal avec ce type d'engagement. On peut penser au fait qu'un certain nombre de personnalités au Crésal étaient soit engagées, soit avaient une sensibilité favorable au Parti Socialiste Unifié, au PSU, donc qui n'était pas un parti ouvriériste tel qu'on pourrait le considérer, mais qui... Voilà, venait avec des problématiques qui pouvaient être proches, englobantes, mais où la formulation des publics, des objets et des enjeux n'était pas forcément la même. Je voudrais revenir sur un petit point sur la question politique. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, l'émergence des classes moyennes, on est en lien avec toute une histoire du logement à Saint-Étienne, toute une histoire aussi de la promotion de l'image de la ville qui est faite surtout lors des différentes municipalités de Michel Durafour, qui visent justement, on peut penser à la construction des quartiers HLM, Beaulieu, La Métard, La Cotonne, plus tard Montréno, même si c'est une opération un peu différente, où à l'époque, l'idée c'est que les gens puissent bénéficier d'un logement du confort moderne, pour aussi appuyer leur ascension sociale et donc s'extraire du milieu prolétaire et des taudis, de toute une imagerie associée au milieu ouvrier. On peut penser aussi que la ville a longtemps essayé de montrer une image beaucoup moins noire, beaucoup moins poussiéreuse et de dire au cadre, venez à Saint-Étienne, c'est une ville intéressante. Donc c'est vrai que le fait, par rapport aux équipements socioculturels ou par rapport aux questions du logement, les transports, etc., les objets de recherche locaux que peut mobiliser le CRESAL, voilà, il s'éloigne d'une matrice purement ville noire, ville ouvrière, pour montrer justement qu'il y a une volonté de monter en gamme, mais qui va se heurter en grande partie à la désindustrialisation à partir des années 70 du choc pétrolier, et qui sera surtout vive au début des années 80.
Alors, avant de passer à la dernière époque du CRESAL, à partir des années 80, peut-être un peu même après, il y a une étude importante qui semble utile d'après les discussions qu'on peut avoir avec mes collègues actuels ou ceux qui sont partis à la retraite. Il y a une période importante, un moment important dans l'histoire du laboratoire, ce sont les études qui ont été faites sur Montchauvet et la muraille de Chine, ou la démolition de la muraille de Chine, un moment très important de l'histoire stéphanoise, qui a mobilisé beaucoup de militants politiques et syndicaux. Et il semblerait qu'il y ait eu un certain nombre de tensions à cette époque, mais c'est aussi un moment où l'histoire de la recherche au CRESAL va peut-être prendre un tournant vers des études urbaines, vers des études sur la mémoire, qui commence déjà à percevoir là, avec lorsqu'André Micou va commencer à s'y intéresser. C'est quelque chose que tu vas peut-être retrouver toi, mais que moi, en tout cas, j'ai pu percevoir à Saint-Étienne quand je suis arrivé. C'est ce moment un petit peu emblématique du retournement des travaux sur le CRESAL, du CRESAL, pardon, sur Saint-Étienne.
Alors, on est aux années 80, je crois.
À peu près, oui.
Au début. L'enquête sur Montchauvet, en fait, elle révèle une chose importante pour le CRESAL. C'est justement, on a des chercheurs qui, pour la plupart, viennent de l'extérieur de la région stéphanoise, mais qui vont développer leur réseau, qui vont avoir des engagements divers, et qui vont donc s'implanter dans leur quartier, dans leur ville, et qui vont développer justement une activité sociale importante. Et le moment, les travaux sur Montchauvet, ils vont justement montrer un peu la difficulté qu'il y a à concilier ses engagements propres dans un quartier populaire et les standards de la recherche académique. Et avec le fait qu'en 80, on a des chercheurs qui deviennent des permanents du CNRS, ça montre quand même qu'il y a une rupture, là encore, il y a un éloignement des pratiques du début. Certes, il y aura toujours la recherche contractuelle, même quand on est chercheur au CNRS, mais c'est vrai que ce regard sur le local, ce regard sur le terrain, il va changer. On va lancer une deuxième pause musicale maintenant, avec une chanson plus actuelle, mais qui regarde aussi les ouvriers, donc les ouvriers de Sanseverino.
Tourneur de vieilles manufactures ou d'usines de chaussures, de crise économique en restructuration, de fermeture d'usines et de chantiers en perdition. Salut, c'est nous, nous sommes les ouvriers. Manufacture de coton, de laine et de soie, les forges de chez Renault, chantier de la Ciotat, d'où sortaient des bagnoles, des paquebots et du tissu. Il y en avait du boulot, ben aujourd'hui, il n'y en a plus. Cadence, précarité, nous sommes les ouvriers. Le front pop de 36, c'était il y a bien longtemps. 40 heures à la semaine, de l'espoir pour 20 ans. Les congés sont payés, on n'osait même plus en rêver. Ça durera pas longtemps, le chômage viendra tout doucement. On va morfler. C'est nous les ouvriers. Tabasser les canuts, 1881, 1848, les ouvriers parisiens. le train et à la chaîne des OS de chez Citroën. Métro, des primes, dodo, des licenciés de chez Renault. C'est notre histoire à nous les ouvriers. Prolétaire, patron milliardaire, sont faits pour se plaire. Pourquoi pas aménager, modifier les horaires et changer aussi les salaires. Ceux pour qui on bossait nous ont bien baisés. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. De moins en moins payés, nous sommes les ouvriers. Le pouvoir vacille. Sacrifier son salaire n'est pas aussi facile. Pour le pouvoir d'achat, y'a que le combat collectif. L'augmentation du niveau de vie sera notre objectif. Tout va changer, c'est nous les ouvriers. Rentrée de manif, les deux arcades ouvertes. Retour au quotidien, omelette et salade verte. Avoir quelques copains, discuter politique. Le partage du temps de travail, ce n'est pas utopique. C'est nos idées à nous les ouvriers. Prolétaires, patrons milliardaires, sont faits pour se plaire. Pourquoi pas aménager, modifier les horaires et changer aussi les salaires. Ceux pour qui on bossait nous ont bien baisés. C'est compris, merci, c'est pas compliqué. De moins en moins nombreux, nous sommes les ouvriers. Le prolo qui va au charbon a toujours raison. L'ouvrier parisien est teigneux comme un chien. Dans la sidérurgie, on passera par notre vie.
De retour dans notre émission mensuelle du Grémoz, donc ce petit swing bien dansant de San Severino, une chanson qui a une petite dizaine d'années sur les ouvriers, donc un regard là aussi forcément distancié avec ce monde un peu perdu, un peu caché aujourd'hui. Donc on repart avec le Crézal. On était dans les années 70, donc on disait 74, il y a un moment où il y a une petite difficulté pour le Crézal par rapport au maire de Saint-Étienne, Michel Durafour, et qui devient ministre du Travail. Donc il y avait une peur un peu aussi que les commandes des administrations soient moins importantes, parce que des visions un peu différentes sur la question de l'aménagement et de l'urbanisme. Et à partir des années 80, donc on a un nouveau milieu, un peu plus lyonnais aussi pour le Crézal. Et on va avoir un renouvellement des chercheurs en partie, avec de nouvelles têtes, et puis avec de nouveaux objets de recherche aussi. Et notamment, là, pour revenir à la problématique ouvrière, nous sommes dans le contexte de la désindustrialisation massive depuis 73-74. Et à Saint-Étienne, on a notamment deux grands anciens fleurons comme Manu France et Creusot-Loire qui sont en grande difficulté et qui vont connaître un sérieux coup d'arrêt en 84 avec la faillite de Creusot-Loire et la liquidation en partie de Manu France, mais qui continuera sous une autre forme. Et étonnamment ou non, c'est à ce moment où le monde ouvrier devient moins évident, au moment où il commence un peu à s'échapper, à disparaître, que les chercheurs du Crézal vont s'intéresser à cet objet. Donc Michel...
Oui, alors, je ne sais pas si c'est vraiment les années 80, c'est peut-être plutôt les années 90. Ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de gens le savent, c'est que la notion de patrimonialisation, qui aujourd'hui est très à la mode dans les milieux culturels, et chez l'historien et le sociologue, a probablement été inventée à Saint-Étienne. Elle a probablement été inventée dans un bureau qui existe encore, hein, au cours d'une discussion entre les collègues de l'époque, Michel Perroni, André Micou et d'autres. Et on commençait à parler de patrimonialisation à propos peut-être de la campagne, mais aussi très vite, c'est autour des vestiges, des restes, de ce qui reste de cette industrie météorologique que tu évoquais et de la mine que un certain nombre de gens, un certain nombre de chercheurs du Crésal vont travailler. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la chronologie précise en tête, mais un travail important va être réalisé par une équipe d'historiens et de sociologues sur le quartier du Marais et sur la CAFL, la compagnie des ateliers et forges de la Loire.
Qui est l'ancêtre de Creuse-Loire.
L'ancêtre de Creuse-Loire et qu'à Saint-Étienne on appelle Barouin,
chez Barouin. Au Marais donc.
Ouais, chez Barouin au Marais. Donc c'est cette équipe de sociologues et d'historiens.
Est-ce que tu peux citer quelques noms?
Alors, j'oublie son prénom, j'ai problème, Daniel Colson, j'ai des problèmes avec les prénoms aujourd'hui. Daniel Colson, qui était professeur de sociologie, mais...
La formation continue à Saint-Étienne.
À l'époque, il était encore la formation continue, il était maître de conférence en sociologie, mais qui a une formation plutôt d'historien et qui se présente à l'époque assez volontiers comme historien. Donc il y a également Jacques Roux, qui est polytechnicien, venu à Saint-Étienne pour développer des études économiques, pour faire du quantitatif, mais qui très vite va prendre le virus des études qualitatives et va s'adapter au contexte local qui privilégie les études qualitatives en sociologie, par entretien, par observation.
Il travaille sur l'industriel, puis sur les techniques plus tard, mais...
Aussi, il va travailler aussi sur les sols pollués, il va faire tout un tas de travaux. Et puis, Jean Nizet, dont tu as peut-être évoqué le nom déjà, que tu connais mieux que moi, mais je ne l'ai pas connu.
Qui était un salarié du Crésal, qui est devenu un chercheur CNRS, qui était abbé, et qui a été aussi un historien du religieux à Saint-Étienne, un petit peu, qui travaille sur la JOC, sur le mouvement populaire des familles, sur le logement, enfin, avec beaucoup de travaux très intéressants. Et donc voilà, on a un petit noyau dur auquel on pourra ajouter plus tard Michel Perroni aussi, mais pas sur l'enquête encore.
Non, Perroni viendra un petit peu après. À l'époque, il est encore étudiant. Il doit être en train de faire sa thèse. Alors, sur ce travail sur la SAFL et sur le Marais, en fait, est intéressant parce que les chercheurs vont faire le constat que finalement, la société ouvrière, en tout cas dans le quartier, est terminée et qu'il faut regarder peut-être ce monde ouvrier autrement. Qu'il est peut-être le moment de le regarder à partir des traces qui restent du monde ouvrier, à partir de ce patrimoine qui est en train de se constituer. Et à ma connaissance, c'est la première fois où cette notion de patrimoine attaché à la question ouvrière apparaît au moins à Saint-Étienne, mais même à l'époque au niveau national, c'est quelque chose à l'époque qu'on voit très peu. Hein. La notion de patrimoine est attachée assez fréquemment à l'époque aux industries, ce qu'on avait appelé encore à l'époque l'archéologie industrielle, avec les travaux de Maurice Doma, mais on ne l'attache pas trop encore à la question ouvrière, ça viendra un petit peu plus tard, des ouvriers eux-mêmes étant souvent, en particulier la CGT, le Parti communiste, très réservés, très réticents à associer le monde du travail à la notion de patrimoine qui, alors soit quand on parle de musée, ça fait référence aux Indiens, on n'est pas des Indiens, et s'il s'agit de protéger des sites ouvriers, l'idée là c'est que le musée est synonyme de mort et de fin de l'industrie. Donc vraiment là il y a des réserves très importantes dans le milieu ouvrier pour cette patrimonialisation.
Ce qui ne va pas empêcher le développement de petits musées de la mine ou d'une association à Saint-Chamond comme le CERPI qui va œuvrer dans ce sens dans les années 90 surtout.
Tout à fait, le CERPI c'est le milieu des années 90. Hein, le CERPI va naître pour essayer de préserver les vestiges matériels de cette société industrielle qui est en train de, pas de disparaître, mais qui est de moins en moins importante, et en tout cas qui fait travailler de moins en moins de monde. Et le CERPI a cette idée aussi à l'époque, qui n'est pas si fréquente, d'associer un travail sur le patrimoine bâti, le patrimoine sur les vestiges matériels de cette civilisation industrielle, avec la mémoire ouvrière. Et le CERPI va se lancer dans une série d'enquêtes. Mais là, ça nous éloigne un petit peu du Crésal, même si les gens du Crésal, en particulier André Micou, étaient très proches du CERPI. Hein. Je pense même qu'André Micou devait être membre du CERPI Faudrait lui poser la question d'ailleurs.
Donc on a milieu des années 80, fin des années 80, ce travail sur l'histoire de la CFL, de sa main d'œuvre, de ses institutions, une histoire plus industrielle, plus économique aussi, qui peut être menée suivant les champs de spécialité des chercheurs. Au début des années 90, le rapport sur le Marais qui est réalisé par les chercheurs.
Et qui est publié aux presses universitaires de Lyon.
J'ai un éditeur lyonnais, mais c'est presque pareil.
C'est un éditeur lyonnais, oui. Un peu plus
machinatif. Et on a également un travail sur le... Ah, justement, on a une recherche sur le travail photographié aussi, sur le geste, sur la technique des travailleurs, des ouvriers, qui est faite au cours des années 90.
Voilà, alors ça, c'est effectivement un travail très intéressant qui va être dirigé par Michel Perroni et Jacques Roux, qui vont travailler avec des photographes et qui vont travailler avec des archivistes. Et ils vont aller à la recherche des traces imagées, visuelles, photographiques du monde du travail. Alors, dans la mine, mais pas simplement dans la mine, également dans tout un tas d'entreprises métallurgiques, du textile, sur Saint-Étienne, mais pas simplement sur Saint-Étienne. Et cet ouvrage qui s'appelle Le travail photographié, qui va être publié avec une, si je me souviens bien, une préface ou une introduction de Marc Auger. Marc Auger, à l'époque, c'est l'un des grands anthropologues dans le paysage scientifique français, qui était ou qui avait été président de l'École des hautes études en sciences sociales, donc c'est quelqu'un qui compte. Hein. Donc cet ouvrage met en confrontation. Les photos qu'on peut avoir du monde du travail avec la vie ouvrière. Et on s'aperçoit dans cet ouvrage, en fait, que les ouvriers sont très rarement photographiés. On voit beaucoup de vestiges industriels, on voit beaucoup d'entreprises photographiées, d'intérieurs, d'ateliers. Mais même quand on voit les ateliers, les ouvriers ne sont pas au travail dans les ateliers. On a l'impression qu'ils sont en pause.
Oui, ils sont figés.
Ils sont figés. Hein, et c'est intéressant de voir dans cet ouvrage, en fait, que les photographies du monde ouvrier... Un peu la même chose a pu se passer pour le monde paysan, hein. Montre des individus qui ne travaillent pas. Et ça nous interroge beaucoup, et c'est l'ouvrage le fait, sur les représentations du travail. Hein. On voit qu'en France, le travail, finalement, n'est pas quelque chose qui mérite peut-être d'être montré pour ce qu'il est. Hein.
Et ce travail donc, sur la patrimonialisation des mondes ouvriers, est-ce qu'il a perduré ensuite ? Que ce soit au Crésal, qui existe en tant que tel jusqu'en laboratoire jusqu'en 2007, et puis qui après, au fur et à mesure des politiques de la recherche, va être reconfiguré dans d'autres labos, et donc aujourd'hui, Centre Max Weber. Est-ce qu'il y a une tradition qui a perduré sur cet objet ?
Je ne sais pas si on peut parler de tradition. La question de la mémoire va être beaucoup travaillée par Michel Perroni, qui va également travailler sur la mémoire des mineurs. Il a un article tout à fait excellent dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Une histoire à soi », où il interroge des mineurs qui racontent leur vie. Et puis, il a une grosse enquête qu'il fait, lui, sur un ancien mineur qui a créé un petit musée, ou un grand musée, enfin, ou un petit musée avec une grande collection, qui s'appelle Michel Sommet. Jean-Marie Sommet, qui, à Villars, va ouvrir ce musée issu d'objets qu'il a lui-même construit. Qu'il a lui-même récupéré. Enfin, il va ouvrir le musée, va ouvrir, mais de manière très confidentielle. Alors, Michel Perroni, lui, est membre du Crésal, mais n'est pas Stéphane. Enfin, il est stéphanois, membre du Crésal, mais il est professeur à l'Université de Lyon, à Lyon 2. Il n'est pas enseignant-chercheur à Saint-Étienne, comme on dit. D'autres vont prendre le relais. André Micou va travailler aussi beaucoup sur les questions de mémoire. Ça va être quelqu'un d'important sur, pas de mémoire, mais de patrimoine. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup à la réflexion sur le patrimoine. Bon, et puis moi-même, je vais arriver en 2006 avec cet actif ou ce passif hein, d'être un spécialiste du patrimoine, puisque j'avais déjà, dans les années 90, travaillé en particulier avec André sur les patrimoines industriels et plutôt sur les patrimoines ruraux. Donc moi, j'arrive et je vais lancer un travail sur les représentations et sur les imaginaires de la ville de Saint-Étienne, mais vu à partir d'une problématique donc un peu décalée par rapport à un simple recueil de mémoire. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que aujourd'hui cet imaginaire de la ville de Saint-Étienne s'appuie sur des mémoires, sur des vestiges sur des vestiges matériels, sur des traditions, sur tout un tas de choses, y compris le foot, qui ont marqué l'identité stéphanoise. Mais j'étais venu ici pour en parler il y a un an ou deux déjà. Je ne vais pas revenir sur le sujet.
Donc, en conclusion, ce qui est intéressant dans cette histoire de la recherche au Crésal, c'est qu'on va avoir une fondation qui est motivée par une connaissance des conditions d'existence de ces milieux ouvriers. Et puis, par des biais détournés, pendant longtemps, on va avoir le transport, l'habitat, le tissu industriel, etc., etc. Des enjeux, des problématiques qui intéressent ce monde ouvrier. Mais il faut attendre finalement les années 80 et la désindustrialisation pour que à nouveau l'objet ouvrier apparaisse de manière explicite.
Oui, enfin il apparaît de manière explicite via les travaux sur la mémoire et sur le patrimoine. Et si on est à la fin de notre entretien, je voulais rajouter quand même une chose.
On a une minute encore au moins pour ça.
Trois minutes, qui me semble importante. Est-ce qu'une sociologie ou une histoire du monde ouvrier est quelque chose qui est fermé sur elle-même? Je ne pense pas. C'est peut-être aussi la conclusion qu'on peut tirer de cette discussion, c'est que travailler sur le monde ouvrier, c'est le mettre aussi en relation avec tout un tas d'autres mondes sociaux qui existent. Et les travaux de Jacques Yon le montraient bien dans les liens qui ont pu être établis entre les centres socioculturels et les ouvriers qui étaient présents en tant que militants et en tant que consommateurs de culture. Mais on le voit aussi sur autre chose, qui est tout le travail qui a été fait sur le Crésal, au Crésal, autour de l'insertion, autour des problématiques de l'insertion sociale. Et là, on voit très bien apparaître cette question ouvrière, puisque les ouvriers, incidemment, sont présents dans les biographies des travailleurs sociaux, sont présents parce qu'ils sont les destinataires d'un certain nombre de politiques. Donc, travailler sur les mondes ouvriers, c'est aussi travailler sur tous ces univers. Et puis, autre chose qu'on n'a pas évoquée, c'est la question des immigrés. Saint-Étienne est une ville qui possède une grande proportion de ses milieux populaires issus de l'immigration maghrébine. Et les travaux sur la mémoire, sur le patrimoine ouvrier à Saint-Étienne, avec les travaux de Catherine Gauthier en particulier, vont se consacrer plus particulièrement à la mémoire et au patrimoine des ouvriers issus de l'immigration algérienne. Et ça, c'est important à souligner. Ça a été fait à Saint-Étienne et ce n'est pas véritablement fait dans beaucoup d'anciens centres ouvriers en France.
Bon, on espère qu'avec toute cette présentation, on aura éventuellement suscité quelques vocations à ce niveau-là. Donc, notre émission se termine. Notre saison sur les ondes de Radio Dio se termine. Vous retrouverez l'émission mensuelle du Grémos à la rentrée. Donc on vous souhaite, avec Michel et toute l'association, un très bon été.
On se retrouve la saison prochaine. En effet, merci Antoine, merci Michel. Juste quand même, parce qu'on est allé très vite là, sur ces différentes périodes. Alors si j'ai bien compris, c'est un peu des périodes d'anniversaire. Hein. Ce sont les 60 ans quasi du Crésal. Les 80 du CNRS aussi, finalement. Oui. Hein, c'est l'occasion de croiser et de célébrer ces deux anniversaires. Simplement, quelle est l'actualité du Crésal aujourd'hui? Le labo s'est arrêté en 2007, comme vous le précisiez. Voilà. On le voit apparaître aujourd'hui dans des collections et sur diverses publications. Quel est aujourd'hui l'objet et l'activité essentielle du...
Donc aujourd'hui, c'est le centre Max Weber. Hein.
C'est Max Weber. C'était une fusion de différentes...
Voilà, le Crésal s'est transformé en 2007 en un autre laboratoire qui s'appelait Modis, qui a duré le temps d'un contrat. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est le centre Max Weber, qui est un laboratoire de sociologie qui est...
Lyon-Saint-Étienne.
Entre Lyon et Saint-Étienne, en gros, 25% à Saint-Étienne et 75% à Lyon.
D'accord.
Il y a effectivement encore une collection aux publications de l'Université de Saint-Étienne qui s'appelle Crésal. Bon,
voilà, c'est pour ça que ça m'interpellait un petit peu, parce qu'effectivement, tu l'as évoqué, Michel, il y a ton ouvrage Saint-Étienne, enfin votre ouvrage, parce que c'est un ouvrage collectif, oui. Saint-Étienne, ville imaginée, mineurs, artistes et habitants, qui est paru au Opus, Presse Université de Saint-Étienne, mes collections Crésal.
Corinne Crésal, Védrine. Sociologie, matière à penser.
Oui. Ok.
Le titre exact de la collection.
D'accord, c'est ça. D'accord. Très bien. Ben bon. C'était juste une petite question comme ça, pour pointer aussi cette actualité éventuelle. L'autre actualité, c'était il y a très peu, c'était encore évoqué lors de la question de l'engagement aussi et de l'urbain.
Voilà, ça on l'a traité à l'école d'architecture, pendant deux jours, où ça a été deux jours absolument passionnants, où on a refait l'histoire et on s'est rendu compte que Saint-Étienne et Lyon, mais aussi Saint-Étienne, étaient au cœur de toute une grande partie de l'histoire de la sociologie française autour des questions urbaines.
On peut imaginer une grande porte ouverte et imaginer une déclinaison sur de multiples sujets et thématiques pour des émissions à venir. Merci beaucoup,
sur la ville.
Michel. Merci
Avec
Antoine.
Plaisir.
À la saison prochaine. Un très bel été. Au revoir.